Vous écoutez RTL.
All through the night.
Les nocturnes de RTL, de minuit à 2h du matin.
Depuis 1973, la musique a toujours été ma priorité.
1973, 2017, 44 ans de légende. Une voix.
George Lang.
La musique.
Le mercredi soir, les auditeurs pas comme les autres programment l'émission.
Ce soir, à partir de minuit, les nocturnes du mercredi avec Olivier Royan.
Directeur de la rédaction de Paris Match.
Bonsoir et bienvenue dans les nocturnes sur RTL. Quand, dans la promo que vous venez d'entendre, vous entendez que des auditeurs pas comme les autres viennent dans le studio des Nocturnes pour programmer et animer l'émission, les mercredis soirs bien sûr, vous êtes loin de penser que de grands patrons de presse sont des aficionados de cette session tardive sur RTL. Ce soir, je reçois celui qui fait vibrer sa rédaction avec la musique des Nocturnes chaque lundi soir, au moment du bouclage de son hebdomadaire le plus connu de France, en vente dans le monde entier. Je veux parler d'Olivier Royan, qui est directeur de la rédaction de Paris Match. Un passionné de journalisme, d'Amérique et de musique. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Georges.
Alors, c'est la deuxième fois que je t'invite et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir en face de moi pour cette émission qui est la tienne. C'est toi qui vas programmer, c'est toi qui vas piloter. Tu écoutais les informations tout à l'heure, tu as peut-être un commentaire à faire par rapport à ce qu'on vient de dire concernant la COP21.
Oui, bah c'est vrai qu'on est un peu atterré. Je veux dire, on est atterré parce que la réunion de la COP21 à Paris a été un événement très important, puisque tous les pays, pour la première fois, les grands pays ont décidé d'agir sur l'environnement. Et là, on voit l'Amérique, cette Amérique qu'on aime tant, qui est en train de se retirer de ce processus qui est tellement important. Et on n'en revient pas de ces premiers pas de Donald Trump sur la scène internationale qui sont assez inquiétants.
Alors tout à l'heure, avant de rentrer dans le studio ici, nous avons bu un verre ensemble. Tout le monde sait que sa vie, c'est pile poil en face de RTL. Il faisait bon, on était à la terrasse, on a commencé à parler de Trump et tu m'as montré des photos dans ton téléphone. Tu le connais bien, dis donc, Donald.
Mais j'en reviens pas que cet homme soit devenu président des États-Unis, parce que c'est vrai que Donald Trump, ça fait 30 ans qu'on le connaît à Paris Match. C'était une sorte de Trump, quand on l'a connu au début des années, au milieu des années 80, c'était un peu une sorte de Bernard Tapie américain.
Oui.
Avec lui, rien n'était off. Il racontait tout. Il parlait de son argent, de sa femme. Il montrait, je me souviens de la première interview, on survolait Manhattan et il me montrait à travers l'hélicoptère, il me disait ça, j'ai construit ça, cette tour, c'est moi. Un jour, il nous dit je vais ouvrir le plus grand casino du monde à Las Vegas, à Atlantic City, il faut que Match soit là. Alors je suis venu avec un photographe et il nous a dit ça ne suffisait pas, il a dit je vais vous montrer mon avion. Je viens d'acheter un avion, un Lufthansa, qui est un avion dernier cri. Et en plus, je vais chercher un ami. Alors, on se retrouve sur l'aéroport d'Atlantic City. Il veut nous montrer son avion. Je suis Trump dans la passerelle, de l'avion, la passerelle arrière du Boeing 737 ou 727, je crois. Et là-haut, il dit bonjour à son ami. C'est Michael Jackson. Bonjour, Michael. Et là, Trump dit à Michael, je reviens, je vais montrer à mes amis le cockpit, je reviens tout de suite. Et je me tourne dans le photographe, je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Michael Jackson dans l'avion, on perdait un peu nos moyens. Alors Trump nous montre ce cockpit, qui était, paraît-il, un cockpit absolument flambant neuf, nouveau. Il nous montre sa chambre, je crois qu'il y avait un Renoir dans la chambre. Et on revient à l'arrière. Bonjour Michael, les présentations avec Michael Jackson, on n'en revenait pas. Michael, très sympathique, très avenant. Et à cet instant-là, Trump saisit une casquette de la Trump Air, prend un marqueur, griffonne un autographe sur cette casquette et la pose sur la tête de Michael Jackson. Et je me tourne vers Trump et je lui dis, mais Donald, il y a beaucoup de gens qui signent des autographes pour Michael Jackson. Il dit, non, je crois pas que ce soit... Je crois que je suis le seul. Et ça, c'était il y a plus de 25 ans. Donc, vous vous imaginez l'évolution du personnage depuis.
Donc, vous l'avez compris, si j'ai invité Olivier Royan ce soir, c'est parce qu'il connaît bien l'Amérique et qu'il la voit d'une autre manière. Il touche de près tous ces personnages qui sont parfois des gens qu'on ne voit qu'à la télévision, mais toi, tu les fréquentes. Toi, à ton
avis... Pour le moment, on a du mal à accéder à Trump. Je veux dire, il est entouré de personnes qui ignorent un peu l'Europe et qui ignorent les médias européens pour le moment.
Mais honnêtement, quand il a été élu président, tu étais le premier surpris. Et lui aussi était surpris.
Très surpris. Alors, j'ai eu toujours l'impression qu'il voulait faire campagne. Il est monté sur scène. Parce que nous n'avons jamais vu, si tu veux, nous n'avons jamais vu le côté négatif de Trump. On a vu le côté flamboyant, on a vu le côté mégalomane. Mais on n'a jamais vu cette amertume, ce côté négatif qu'il a eu quand il est monté sur scène des primaires. Et je pense qu'il s'est mis à dire des choses extravagantes. Plus il montait sur scène face au public, plus il disait des choses extravagantes, plus on l'applaudissait. Et il a été pris dans une sorte de personnage qu'il n'arrive plus aujourd'hui à déconstruire. Et on peut même parfois aujourd'hui s'interroger sur sa santé mentale.
Olivier Royan, mon invité dans les nocturnes jusqu'à 2h du matin avec une programmation qu'il signe. Et le premier disque qu'on va écouter, c'est Tracy Chapman. Mais il y a une raison, c'est pas par hasard si t'as choisi le titre Telling Stories. Tu es journaliste et c'est peut-être en fait par rapport à ta profession que t'as programmé ça.
Ben, je crois que c'est notre métier, Telling Stories. On raconte des histoires, on essaie de raconter la vie telle qu'elle est. Et je pense que cette passion, tu parlais de la passion pour la musique et la passion pour le journalisme, ça vient de là. C'est cette envie qu'on a de vivre l'histoire en direct. Et raconter des histoires, on parle beaucoup de presse écrite, de presse numérique. Ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est l'histoire. Et j'aime beaucoup ce titre, Telling Stories. J'ai envie parfois d'utiliser ça comme une devise.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
Sur RTL,
avec Olivier Royan,
directeur de la rédaction de Paris Match.
Olivier, la musique, c'est tellement important pour toi. J'ai cru comprendre ça. Je crois même que, à un moment donné, dans ta vie, tu as voulu partir aux États-Unis parce que tu écoutais la radio et que tu te disais, mais c'est formidable ce que j'écoute, il faut que j'aille sur le terrain pour connaître ça. C'est un peu ça, résumé ?
C'est ça. Moi, je dirais que la radio et puis les nocturnes. Les nocturnes RTL, moi, elles m'ont permis de respirer pendant toute mon adolescence et mon jeune âge adulte, je dirais, avant l'aventure journalistique. J'ai grandi en banlieue. Moi, j'avais un peu l'impression, en banlieue, j'étais un peu pris au piège d'une certaine grisaille, peut-être d'un quotidien un peu étriqué. Et j'étais en quête d'aventure. Et j'écoutais les nocturnes et ça m'ouvrait tout d'un coup ce paysage, la Californie, New York. Et c'est vrai que la musique joue un rôle fondamental. Pour moi, c'est un marqueur de l'existence. Je pense qu'on écoute une chanson et on se remémore l'endroit où on était. Ça évoque des sentiments très très forts. Et ça m'a aussi donné envie d'apprendre l'anglais. J'ai eu envie de lire les textes, pas simplement d'écouter de la musique. J'ai eu envie de savoir qu'est-ce qui se cachait derrière ces grands personnages, qu'est-ce qu'ils écrivaient. Et cette poésie de l'anglais, cette magnifique langue qu'est l'anglaise, qu'est la langue anglaise, parce qu'on peut se servir de petits mots. On peut se servir, c'est une langue qui est facile pour la chanson, parce qu'elle permet, on peut juste apposer des adjectifs. Ce que le français a du mal à faire parfois, l'anglais arrive à le faire, et c'est ce qui m'a donné envie d'écouter toujours plus de musique. Mais le lien avec la musique américaine, ça a été toi, Georges, et ça a été les Nocturnes RTL qui m'ont donné envie de découvrir tous ces artistes.
Bah merci de me le dire, ça me fait plaisir, je rougis.
Non, parce que je suis aussi un oiseau de nuit, c'est-à-dire que il y a des gens du matin, je n'ai pas honte d'avouer que je suis plutôt du soir et que j'adore ce moment entre minuit et 2h du matin, et c'est vrai que ça tombe bien.
Super. Alors, c'est une question de génération. Moi, j'ai appris l'anglais avec les Beatles, parce que les Beatles, c'était 64, c'était ma jeunesse. Toi, c'est quel artiste qui t'a interpellé pour parler leur langue ?
Moi, je pense que c'est l'artiste qui a eu un... Qui a eu le plus d'impact durable sur moi, c'est Bruce Springsteen. C'est Bruce Springsteen parce que j'avais l'impression que quand je prenais ma bicyclette en banlieue le matin, j'avais l'impression qu'il écrivait pour moi. Il écrivait des choses il y avait quelque chose de possible. On pouvait faire quelque chose, aller peut-être ailleurs, tenter des choses. Il y avait quelque chose de très positif. Et c'est Bruce Springsteen qui m'a vraiment donné envie de découvrir ça. Chez Springsteen, il y a une sorte d'énergie physique. Et puis cette phrase, "Tramps like us, baby, we were born to run." Eh bien, moi, je l'ai pris un peu comme une devise journalistique. Les vagabonds comme nous, chérie, on est nés pour courir. Ouais. Je pense que c'est un peu la devise. Born to run, ça peut être aussi une devise journalistique.
Alors, c'est la raison pour laquelle tu as dû dévorer cette autobiographie qu'il a écrite pendant 7 ans. Born to run, je suppose que tu as appris plein de choses, là.
Je suis assez passionné par ces pirates. Je suis assez admiratif de tous ces vieux pirates de la musique qui écrivent leur mémoire, parce qu'en fait, ils deviennent des historiens. Des historiens, ils font preuve d'une franchise, ils n'ont pas la langue de bois des politiciens. Tout vient quand même quand Keith Richards a raconté ses mémoires où il tire un coup de feu dans sa chambre et par bonheur ça ne touche pas la chambre au-dessus où était Bill Wyman, je crois. Bon, il raconte vraiment les choses. Et Springsteen, c'est un voyage dans l'Amérique. C'est 40 années depuis les débuts du Asbury Park, ses débuts jusqu'au triomphe planétaire qu'il vit aujourd'hui. C'est la vie en commun d'une dizaine de personnes, de musiciens qui ont eu la force et qui ont une sorte d'intelligence de rester ensemble et de vivre ensemble.
Alors lui aussi, c'est un banlieusard. Il est du New Jersey, il n'est pas de Manhattan.
Voilà, il est du New Jersey et je pense qu'il a gardé cet ancrage qui est très très important pour lui. Le fait d'avoir vécu en banlieue, loin des grandes villes, dans la périphérie de Manhattan finalement.
Avec New York en face
avec
en permanence.
Avec New York en face en permanence et puis ses croisements, c'est-à-dire c'est l'histoire de Springsteen, c'est quelqu'un qui vient d'un ses trois sœurs italiennes qui ont épousé des Irlandais. Alors oui. C'est le quartier, il y a toutes ces influences italiennes, ces influences irlandaises, et puis ça va se retrouver aussi avec un élément religieux aussi, puisque beaucoup de choses se passent dans les églises, on y chante le dimanche, et après il va prendre la route, il va partir vers Raleigh, vers le sud, et la Californie.
Alors on va écouter un titre que tu as choisi, c'est We Take Care of Our Own, il y a une raison je pense.
Écoute,
tu n'as rien fait par hasard.
C'est un peu le journaliste qui est là ce soir aussi, c'est-à-dire qu'il y a une chanson lors de la réélection de Barack Obama, le soir de la réélection, donc en 2008, ils ont chanté, c'est la chanson qui accompagnait l'arrivée de Barack Obama sur scène. C'était un moment donc Tu sais la phrase de Barack Obama. Barack Obama a dit « J'ai décidé d'être président des États-Unis le jour où j'ai compris que je ne serais pas Bruce Springsteen ». Alors ces deux-là sont devenus amis. Écoute, ils étaient en vacances à Tahiti il y a 15 jours, 3 semaines. Ils sont partis à Bora Bora sur un voilier ou sur un yacht, entourés des gens du Secret Service. Eh bien, Bruce Springsteen, Barack Obama, c'est intéressant parce que en même temps, on a l'impression que cette Amérique dont parle Bruce Springsteen, sur laquelle il écrit, c'est-à-dire cette Amérique cette Amérique de la désindustrialisation, cette Amérique un peu périphérique de ces gens qui sont un peu largués, eh ben ils n'ont pas voté pour Barack Obama finalement. Ils n'ont pas voté pour les démocrates, ils ont voté Trump. Et je pense que Springsteen doit se trouver un peu dans une situation ambivalente où son public finalement adore ses chansons, le lit, aime la personnalité, mais quelque part ils ont déserté le camp démocrate pour qui Bruce Springsteen s'est beaucoup battu ces années passées.
We take care of our own. Le boss Springsteen. Choisi par Olivier Royan. Take care of our own. Olivier Royan a choisi ça. Et il y a plein de titres comme ça qui vont nous permettre de passer un très bon moment jusqu'à 2h du matin. Donc je ne te demande pas si tu es fatigué parce que tu es un oiseau de nuit. Tu écris pendant que tu écoutes la radio, tu bosses pour toi ou pour le,
oui,
pour
oui,
le magazine.
Oui, bien sûr, j'ai toujours travaillé en écoutant la radio.
Et tu peux faire ça.
Oui.
Moi, je peux pas. Mais ou je travaille, ou j'écoute, mais j'arrive pas à faire les deux.
Non, j'ai besoin d'entendre de la musique à cette heure-là. Alors évidemment, après, quand on est immergé dans la lecture ou dans l'écriture, c'est plus difficile. Mais c'est, j'imagine pas la nuit sans musique, non.
Et à mon avis, tu es tout le temps en alerte. Je vois par exemple, aujourd'hui, Jacques Pradel recevait un de tes journalistes, Jean-Michel Caradec, à propos de la voiture de Lady Diana. C'est passionnant ce métier, mais qu'est-ce que c'est prenant? Tu peux plus avoir de vie de famille, là.
Je pense que ce qui est difficile, c'est que on a vécu le journaliste sans les portables. On a vécu les journalistes où il fallait aller chercher une cabine téléphonique pour appeler le journal en PCV. Alors évidemment, quand on explique ça au plus jeune... Call Collect aux États-Unis, on appelait le journal. Alors évidemment, c'est un peu difficile à expliquer ça aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on était tranquille. On avait notre carnet, on avait notre crayon, on faisait nos interviews et puis après on travaille. Là aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu fou. Il y a une sorte de temporalité différente. Alors nous, il y a le magazine que l'on boucle le lundi soir jusqu'au mardi matin,
avec le son des nocturnes
et qui sort le jeudi matin dans les kiosques. Et puis à côté de ça, il y a ce cycle infernal de l'actualité qui ne s'arrête jamais sur toutes les plateformes. Par exemple, le matin, à 8h du matin, on a près d'un million de jeunes qui ont entre 16 et 22, 25 ans, qui sont sur Snapchat, sur Discover de Snapchat. On a ce public-là.
Ça, c'est le nouveau truc.
C'est le nouveau truc. Et donc, chaque nouvelle plateforme a son mode d'écriture, son mode d'expression particulier. Et en même temps, ça ne s'arrête jamais. Ce cycle infernal d'actualité est absolument infernal. Il est beaucoup amplifié, je dirais, par les télévisions en continu. Ce qu'on a vu aux États-Unis avec CNN, avec la Fox. Bon, ici, on l'a aujourd'hui maintenant avec BFM TV, avec LCI, etc. Donc, c'est un cycle. C'est vrai que c'est un petit peu, on s'y perd, on a la tête qui tourne. Et c'est pas facile, parfois, de trouver un bon repère parce qu'on entend aussi, on lit des choses qui sont parfois fausses et qui sont des exagérations, des rumeurs qui sont transformées en informations alors qu'on oublie trop souvent la vérité des faits.
Les fake news, les fameuses fake news.
Les fake news qui sont un phénomène extrêmement inquiétant et contre lesquels on doit lutter. Je pense que les grandes marques de presse, les grandes marques médias et RTL et Match en font partie. Ce sont des marques qui respectent leurs auditeurs, leurs lecteurs. Par conséquent, elles se doivent de leur apporter une information vérifiée, vraie. Et ça, qu'on soit sur le digital, le numérique, le print, les critères journalistiques doivent rester les mêmes. Il faut tenir fort, il faut tenir bon, parce que c'est un combat qui n'est pas gagné d'avance. Il y a une sorte de banalisation de cette fake news, justement. Et je pense que là, c'est notre combat des années à venir, le marketing de la vérité, j'appelle ça. Et tu remarqueras qu'aux États-Unis, par exemple, c'est quelque chose de très important. Le New York Times a acheté un écran publicitaire très cher pendant les Oscars, où il disait justement, il n'y a rien de plus important que la vérité. Et le Washington Post, de son côté, a changé sa devise. Il y a maintenant un mois et demi, sa nouvelle devise, c'est la démocratie dies in darkness. C'est-à-dire que la démocratie peut se perdre dans ce qui est la pénombre du fake news et de tout ce qui est faux. Danger, à nous de nous battre dans les années à venir.
YouTube, maintenant, on parle musique. Pourquoi U2 avec B.B. King?
Alors U2, c'est important parce que d'abord c'est un anniversaire pour le groupe. Il y a 30 ans, ils sortaient de Joshua Tree. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Je venais d'arriver aux États-Unis. J'ai passé 10 ans aux États-Unis en 87. Je venais d'y arriver et ils ont vendu évidemment 20 millions d'albums. Mais au-delà du nombre d'albums vendus, je pense que ça a été un phénomène, Joshua Tree, parce que c'était un album qui marquait la fin des années Reagan. Alors Thatcher était encore au pouvoir, Reagan aussi, et d'une certaine manière, l'environnement politique de l'époque ressemble beaucoup à celui qu'il est aujourd'hui. C'était une période de mutation sociale très importante. Il y avait la guerre froide, il y avait encore la confrontation entre les États-Unis et la Russie. À l'époque, Ronald Reagan était la cible et la bête noire des artistes, des médias. Aujourd'hui, c'est Donald Trump. Et ce que j'ai remarqué, alors U2, finalement, pour commémorer ses 30 ans du Joshua Tree, est parti sur une longue tournée. Ils étaient à Pasadena, en Californie, la semaine dernière. Et je lisais une interview de Bono qui disait « On avait failli baptiser notre album « Les deux Amériques ». C'est-à-dire ce qu'on a vu apparaître justement récemment, cette espèce de division. Cette division profonde du pays, et bien déjà U2 le ressentait. Et selon Bono, il y avait deux Amériques, l'Amérique mythique et le pays réel. Et à l'époque, U2 était assez obsédé par cette Amérique qui est une sorte de terre promise pour les Irlandais, et puis parfois aussi qui peut être une terre de promesses brisées et non tenues. Alors, cet album, ce morceau qu'on a choisi, ce n'est pas rien non plus, puisque c'est cette espèce d'hommage de U2 à B.B. King. Ils sont allés dans ce studio que toi tu connais, où moi je n'ai jamais mis les pieds, qui est ce studio mythique, le Sun Studio de Memphis. Mm-hmm. Et là, ils vont faire cet échange remarquable avec B.B. King.
Mais c'est un fou d'Elvis Presley, Bono. Ils ont enregistré dans ce studio, alors que personne n'a enregistré. Et depuis qu'ils ont enregistré, d'autres groupes, d'autres artistes les ont suivis, alors que c'était un musée jusqu'à présent.
Alors, ils étaient, évidemment, B.B. King était une légende pour U2. Ils avaient énormément d'admiration. Et j'ai revu la vidéo, le clip qu'ils en ont sorti. Alors, c'est un clip noir et blanc. Et il y a une visite de Graceland au milieu.
Ils sont au bord du Mississippi aussi, à un moment donné.
Voilà. Alors, j'ai remarqué aussi qu'ils avaient... ils sont allés plusieurs fois sur scène avec B.B. King pour interpréter cette chanson qui demandait un certain effort pour B.B. King, quand même. Parce que c'était pas exactement son rythme, mais il a suivi.
Il n'était pas fou. Hein. Il savait très bien qu'en se mettant du côté de U2, il avait un autre public. C'était un businessman, c'est un garçon très intelligent, B.B. King.
Alors on regarde, on voit
un homme d'affaires en plus.
Et on voit le regard absolument fasciné des musiciens de U2 sur B.B. King qui le cajole comme une idole. C'est très, très émouvant de les revoir.
Il est chez lui. Il était DJ à un moment donné dans une radio. En plus, il a monté sa boîte, le B.B. King Blues Club sur Bill Street. C'est tout un symbole que U2 soit allé vers lui comme ça.
Et c'est une belle rencontre, en tout cas.
Love Comes to Town, on a un petit peu abordé le blues avec B.B. King et U2. Mais j'aimerais maintenant que tu me parles de ta passion pour le blues de Clapton que tu connais bien puisque tu l'as fréquenté lorsque tu étais à New York, je crois. Tu m'as même dit que tu avais joué au billard avec lui, c'est vrai ça?
Oui, c'est vrai. Et c'est passé de dire qu'on fréquentait Eric Clapton pour ami, aussi un ami français restaurateur qui tient ce restaurant qui s'appelle le Bill Bocquet, qui est une sorte de rencontre où tout le monde se rencontre, à la fois les Européens, les Français, et puis un public d'artistes. Et c'est vrai que j'ai toujours été étonné par j'adore la personnalité d'Eric Clapton, qui est quelqu'un d'assez calme, assez gentil, puis qui en même temps raconte un peu sa vie sur scène, ce qui lui passe.
Bourru aussi, hein.
Oui, bien sûr. Et puis il est quand même, mais c'est quelqu'un qui avance dans l'âge, à qui on demande de jouer devant 30 000, 40 000 personnes. Il a mal aux mains, c'est difficile. Et puis il monte sur scène, et puis il y arrive quand même. C'est quelqu'un d'assez généreux. Je me souviens aussi de ce drame qu'il a vécu à New York, hein, quand son fils est tombé de l'étage. Ça a été une tragédie pour tous les gens qui le connaissaient à New York. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et c'est vrai que cette musique, ce blues nous fait... nous émeut énormément, et je pense que Clapton nous a permis de rentrer dans ce monde, pour des gens comme moi, nous a permis de rentrer dans ce monde du blues qui n'est pas forcément un monde facile à pénétrer.
Alors, quand tu parles de Clapton, tu le vois sur scène, tu connais ses chansons, tu connais bien son répertoire, ou c'est un pote comme ça que tu rencontres?
Non, j'aime bien son répertoire. C'est quelqu'un j'adore sa voix, j'adore la façon dont il nous embarque dans une chanson.
C'est que pendant longtemps, il a refusé de chanter parce qu'il trouvait qu'il chantait pas bien. Hein.
C'est vrai.
Et c'est un duo de Lennon et Bonnie qui l'a invité à une tournée, qui lui a dit mais chante, bon sang, chante. Et là, il a commencé à chanter timidement, c'était pas terrible. Et après, il s'est pris au jeu
et c'est vrai qu'il y a un
merveilleux artiste.
Et c'est étonnant de voir aujourd'hui la ferveur qu'il y a autour de Clapton. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui suscite beaucoup. Alors, ça reste exceptionnel. C'est assez rare de le voir sur scène.
Quand tu l'as connu, il vivait une vie dépravée. C'est-à-dire
non.
Non, il était déjà rangé.
Oui, ils étaient déjà rangés. Je crois.
Tu as lu son autobiographie quand même.
Oui, ils étaient déjà rangés. Moi, je vous parle du milieu des années 90.
Ouais.
Les vieux pirates sont déjà un peu en train de fonctionner à un rythme différent. Et c'est vrai que, par exemple, Clapton, je me souviens d'un déjeuner, j'ai des amis qui s'appellent les Gypsy Kings, hein, qui est des guitaristes, Toninho Baiardo, grand guitariste.
Ceux qui sont sold out à Los Angeles pendant 10 jours de
exactement,
suite,
exactement,
au Brick Theater.
Que j'ai vu la semaine dernière, d'ailleurs, avec qui on a dîné la semaine dernière, et Clapton m'a demandé, j'aimerais savoir comment il fait. Parce qu'il y avait une guitare pour toute la famille chez les Baiardo, chez les guitaristes. Et certains étaient gauchers, certains étaient droitiers. Et ils jouaient avec la même guitare. Et c'est vrai que cette guitare gypsy jouée par Toninho Baiardo, ça intrigue énormément Eric Clapton parce qu'il y a du mystère pour lui.
Alors tu as choisi de nous faire entendre Clapton aux côtés d'une autre grosse personnalité maintenant, quelqu'un qui est vraiment une idole de la nouvelle génération, c'est Joe Bonamassa.
Et je dois dire que c'est les Nocturnes qui m'ont fait découvrir Joe Bonamassa. J'avais raté Joe Bonamassa. Et c'est vrai que je ne savais pas que je l'ai découvert.
Il est venu au Grand Rex, hein, il n'y a pas longtemps. Il y a encore le flyer là, sur le mur, tu vois. Tu l'as raté? Tu n'es pas allé le voir?
Mais non, je l'ai raté au début de sa carrière.
Ah, d'accord.
J'ai pas vraiment fait attention au phénomène qui décollait. Et puis j'ai vu à quel point les gens ne tarissaient pas d'éloges sur ce petit prodige. C'était même B.B. King, je crois, dont il avait fait la première partie.
À 13 ans.
Et puis, j'ai découvert l'histoire du gars. 4 ans, il commence à jouer de la guitare à 4 ans. Son père tient un magasin
sur la côte est.
De guitare. Il est originaire de New York. Et puis, je crois que son son est unique. Et puis, cette façon qu'il a de jouer. Donc là, merci encore une fois de m'avoir fait découvrir cet artiste.
Alors, il faut aller chez lui à Malibu. Enfin, maintenant, il a déménagé. Il habite à Laurel Canyon. Mais il m'avait invité chez lui. Il n'y a pas de place pour une famille, pour une femme, pour des enfants. Il n'y a que des guitares et des amplis partout. Mais c'est un fou. Hein. Quand il achète un ampli, quand il achète une guitare, il ne s'en sépare jamais. Donc il en a des centaines et des centaines. C'est assez incroyable. Et puis c'est un perfectionniste, tu sais. C'est ce que je lui reproche un peu. C'est que ça manque parfois un petit peu d'âme. Tu vois, il est extrêmement au point avec sa guitare. C'est, quand on le voit jouer, on croit rêver. J'aimerais bien qu'il mette un petit peu de soul dans son blues. Tu vois. Mais bon, il y arrivera. Il est jeune encore. Il a 40 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on va écouter?
Alors là, on a choisi un Joe Bonamassa live, hein, qui est au Royal Albert Hall, et on va entendre la voix d'Eric Clapton, puisqu'on a l'impression qu'ils sont un peu mano à mano, un duo qui a l'air de l'émouvoir assez, puisqu'à la fin, Bonamassa, je crois, le dit, on n'a jamais vu un moment comme ça.
Et puis il hurle à la fin.
À la fin.
Joe Bonamassa!
mistreat someone, someone's gonna mistreat you. You've been laughing, pretty babe. Someday you're gonna be crying. You've been laughing, pretty babe. Someday soon you're gonna be crying. On the road, up the road, you'll find out I'm running alive.
Qu'est-ce que j'aimerais être guitariste de blues parfois, Olivier.
Ah oui.
Quel pied sur scène, écoute ça un peu. Joe Bonamassa, Eric Clapton, Further Up on the Road, un classique. Alors on a parlé de Tracy Chapman, de U2 et B.B. King, de Bruce Springsteen, de Joe Bonamassa, d'Eric Clapton. Maintenant on va parler de la pop anglaise, de ce groupe que RTL... sponsorise, que ce soit pour le disque ou pour les tournées. Il s'agit de Texas avec la jeune chanteuse qui va fêter ses 50 ans, mais elle est toujours jeune dans sa tête. Elle le dit d'ailleurs dans l'interview qu'elle m'a accordée, c'est-à-dire Charlene Spitrie. Un petit coup de cœur donc pour ce groupe.
Oui, un très beau son, très contemporain. Et j'ai eu du mal à me souvenir du nom de la chanteuse, ça met un peu de temps, Charlene Spitrie.
Oui.
Mais non, c'est un.
Avec un accent épouvantable. Je demande toujours une traductrice, parce que je comprends rien. Quand les Écossais parlent, je m'en vais.
Mais moi, j'ai eu un coup de cœur pour Texas.
Oui. Et quel titre tu veux qu'on écoute sur ce nouvel album ?
On écoute Round the World.
tout de suite, là comme aussi. Ça. On va rattraper le retard qu'on a pris, parce qu'on est bavard ce soir. Mais c'est tellement intéressant tout ce que tu nous racontes. Olivier Royan est avec nous jusqu'à 2h du matin dans les nocturnes, dans ces nocturnes. On va arrêter de manger des macarons. Ça fait s'abonner sur l'antenne.
Sur RTL.
Avec Olivier Royan.
Olivier Royan qui nous fait une programmation d'enfer. Texas à l'instant, Round the World. Et puis, immanquablement, parce que tu l'as programmé, moi je la mets tout de suite dans la première heure pour que tout le monde l'entende, Emmylou Harris. Qui n'a pas aimé Emmylou Harris? Quelle belle plante déjà pour commencer.
Et voilà quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer.
Ah oui, il fallait qu'il me connaisse à l'époque.
Sa voix envoûtante, son charme fou. Et alors, quand j'ai entendu la voix d'Emmylou Harris pour la première fois, évidemment, on pouvait pas voir Emmylou Harris que dans les magazines de rock. Quand Rock and Folk ou dans certains magazines, je ne savais pas qui se cachait derrière cette voix, cette belle voix. Et je l'ai vue, magnifique, en photo après.
Brune.
C'est brune, absolument superbe. Et puis aujourd'hui, elle a ses très beaux cheveux argentés. Mmh. Elle est belle, elle a ce charme, cette voix. Et puis pour moi, ça a été le soleil de la Californie, Emmylou Harris.
Elle a chanté les Beatles au début de sa carrière. Here, There and Everywhere, c'est exceptionnel. Mais là, tu as choisi un titre qu'elle a emprunté à Chuck Berry.
Et voilà.
Et ça, c'est, C'est formidable parce que ça a été un immense succès. Ça a été repris dans un film et la nouvelle génération a découvert cette chanson. Et c'est You Never Can Tell, c'est la vie. Et j'adore quand elle parle comme Chuck Berry en français. D'ailleurs, elle a enregistré un ou deux titres en français, mais j'aime pas trop. En fait, les Américains aiment bien chanter en français, mais c'est jamais très réussi pour nous. T'as remarqué ça?
Oui.
Ouais. Je préfère quand ils chantent dans leur langue. La belle brune de Birmingham, Alabama, qui était la muse. On peut pas dire la compagne parce qu'on n'a pas de preuves. Mais je pense quand même que c'était son compagnon, Graham Parsons, et qu'ils ont vécu de belles heures ensemble. D'ailleurs, ils allaient se cacher à Joshua Tree, dans un petit motel, dans lequel je vais un peu me reposer et méditer, parce qu'on aime bien méditer dans le désert californien. J'y vais chaque année. Et dans ce motel, où Graham Parsons est décédé, bien sûr parce qu'il avait absorbé des choses qu'il ne fallait pas, et même trop, il y a une chambre, Graham Parsons, et il y a une chambre, Milo Harris.
Alors elle a cette classe, hein, assez naturelle, parce que je me souviens il y a 3 ou 4 ans, un hommage avait été rendu à Bruce Springsteen avec plusieurs artistes, et elle était sur scène. Alors le regard des gens sur Emilio Harris était vraiment très émouvant. Elle était très belle avec cette guitare acoustique. Je crois qu'elle chantait My Hometown.
Mm-hmm. Mais elle est assez proche de Springsteen, surtout de sa femme. Patti Scialfa et elle sont ses copines. Et je crois que Springsteen lui a écrit une ou deux chansons sur un album qui est paru dans les années 90. Il faut que je vérifie ça. Pas que je raconte de bêtises, parce qu'il y a des auditeurs qui connaissent mieux la musique que nous. En tout cas, nous, on va écouter tout de suite You Never Can Tell, c'est la vie. Emilio Harris, je le rappelle, qui sera le 29 juillet dans un festival qui fête ses 30 ans en Auvergne. Un festival qui s'appelle le Country Rendez-vous Festival à Craponne-sur-Arzon. Et là, j'y serai. Harris, You Never Can Tell, c'est la vie. Une chanson qui est devenue un standard, je le rappelle, sera en France le 29 juillet. C'est un événement parce qu'elle n'est pas venue en France depuis très longtemps. Et pourtant, elle a chanté souvent à l'Olympia, dans d'autres salles encore, à Mogador, je crois. Dolly Parton a chanté à Mogador. Ça, je m'en souviens, c'est moi qui l'ai présenté. Et Eddie Mitchell, qui était assis à ta place il n'y a pas longtemps, m'a dit « Je me souviens très très bien quand tu l'as présenté. Tu as dit une connerie. » J'ai dit quoi ? Tu as dit « On n'introduit pas Dolly Parton. » Il en rit encore, à cette heure-ci. Bon, alors, puisqu'on a écouté Emilio Harris, j'ai décidé de mettre un titre que tu as programmé juste après. Et là, je suis très étonné que tu aies programmé ça. Peut-être parce que la chanson a été écrite en partie par Bruce Springsteen, c'est peut-être la raison, non ?
Non, écoute, je l'ignorais.
Tu ne savais pas ?
Je l'ignorais, non, je vais te dire, j'aime beaucoup
cette chanson. Il s'agit de Darius Rucker.
Darius Rucker, alors, originaire de Charleston, en Caroline du Sud, on part un peu en territoire country.
Hein. Ouais, ouais.
Et puis, chanteur et guitariste, alors, avec ce groupe incompréhensible, Hootie and the Blowfish.
Ouais, imagine
que le jour où ils ont trouvé le nom du groupe, quand même.
Ouais.
Et alors, moi, j'aime bien ce groupe que j'ai découvert aussi il y a quelques années grâce à toi. C'est Lady Antebellum, groupe de country avec ces jeunes qui ont fait deux ou trois tubes qui ont très, très bien marché. Et puis, moi, j'aime bien cette chanson qui s'appelle Wagon Wheel parce que j'arrive à me débrouiller avec les trois accords et son rythme élémentaire à la guitare. C'est-à-dire, c'est la chanson que j'arrive à peu près à gratter sur la guitare de mon fils.
On n'a pas de guitare ici.
Non. Mais voilà, Darius Rucker, c'est drôle. Et puis, moi, j'aime bien ce qu'on a essayé de faire dans cette programmation ce soir, c'est des croisements avec des artistes qui se rencontrent. Et là, Darius Rucker et l'équipe de groupe Les Antebellum, c'est pas...
Oui, parce qu'en plus, ils ne sont pas crédités sur le disque. Il y a leur nom,
oui.
Séparément, mais on ne met pas Les Antebellum.
Non, c'est, je crois que c'est Darius Rucker featuring Les Antebellum.
Oui. Alors on va écouter ça, et moi ça me fait vraiment plaisir, parce que qu'est-ce qu'on a pu passer ça. Et je dois dire que Darius Rucker fait une carrière remarquable, c'était pas évident, parce que il y a très peu de chanteurs de country de couleur aux États-Unis. Et lui, il est métis ou black, je sais pas exactement d'où il vient, mais en tout cas, il chante vraiment bien. Écoutez.
I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh,
battre ma coulpe parce que j'ai dit une grosse bêtise. J'ai dit que c'était Springsteen qui avait écrit ça. Mais non, c'est Bob Dylan, bien évidemment. Et c'est en vérifiant, parce que je trouvais ça bizarre quand même. C'est Bob Dylan qui a écrit cette chanson, avec un autre qui est, tu as l'affiche sous les yeux.
Qui s'appelle Catch Secor.
Ouais, je connais pas celui-là. C'est une chanson de Dylan au départ. Voilà. En tout cas, vous écoutez Les Nocturnes de Olivier Royan, qui est le patron de la rédaction de Paris Match. Ça va, Olivier? Tu tiendras le coup?
Très bien. Ça y est, on est dans le sud des États-Unis, là. On est sur la route du Tennessee.
Mais on va partir un petit peu sur la plage, parce que là, tu nous as proposé une chanson que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Écoute, il y a des bruits de vagues. On est sur les bords du Pacifique, là. Enfin, je ne sais pas si on est sur les bords du Pacifique, parce que lui, il est gallois. Je ne sais pas à quel mer ou océan il fait allusion. Enchanté.
Bon, c'est le coucher de soleil quand même sur la route de Malibu, entre Santa Monica et Malibu.
Exactement. Ah, tu connais bien, hein, cette grande baie-là. C'est sublime, sublime. Le soir, tout est un petit peu dans les vapeurs, comme ça. Les lumières tremblent parce que l'humidité de l'océan prend le dessus. On the beach, Chris Rea. Tu aimes Chris?
Oui, j'aime. Et pour moi, c'est la Californie aussi.
Alors, quand je lui parle de cette chanson, je l'interviewais à plusieurs reprises, mais ça fait longtemps que j'ai pu rencontrer. Il me dit toujours, mais qu'est-ce que tu as avec cette chanson? Elle n'a pas marché. Et nous, on aime, on adore. Peu importe. C'est lui qui l'a faite, en tout cas. Behind the garden wall, I used to go. Upon a summer wind, there's a sudden melody. Takes me back. The place that I know on the beach. On the beach. Yeah. The secrets of the summer I will. Sands of time will blow away mystery. No one but you and I, underneath that moonlit sky. Take me back to the place that I know on the beach. Qu'est-ce qu'on a été bavard, mais qu'est-ce que c'est bon de discuter et de parler de musique. Olivier Royan a déjà proposé 50% de sa programmation. Il va revenir dans quelques instants, mais d'abord, c'est l'heure de l'actualité. Les infos, 1 heure, 24 heures d'infos, Julien Cellier.